Professeur d'histoire-géographie en section européenne-allemand au lycée Esclangon à Manosque, Serge Tizi est aussi conférencier en histoire et géopolitique à l'université populaire Graines de Savoir de Fort-Calquier. En 2019, il rejoint notre équipe et propose Géopolitique et histoire des humains. Le 13 novembre, Serge Tizi évoquait les migrations internationales.
Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Fréquence Mistral. Bonjour, James.
Bonjour, Serge.
Aujourd'hui, nous allons avoir comme thème les migrations internationales. Bon, comme introduction, je voudrais dire quelles belles deux grandes journées de commémoration nous avons eues entre le 9 novembre célébrant la chute du mur de Berlin en 1999 et celle du 11 novembre commémorant l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918. Que n'avons-nous pas entendu de louanges sur la chute du mur de la honte ? 30 ans après, on avait l'impression d'être derrière le Reichstag devant la porte de Brandenburg avec les Allemands de l'Est et de l'Ouest en communion. Plus jamais de mur. Comme le 11 novembre, quand les soldats de 14 ont décidé de construire des monuments aux morts après le premier conflit mondial, n'étant pas très pour la gloire du soldat inconnu, mais plutôt pour le plus jamais de guerre. Je vous invite, cher Manosquin, à aller vous rendre au cimetière de Manosque où vous verrez ce que les anciens combattants avaient comme idée quand ils décidé de faire un mur commémorant la mort de leurs frères d'armes morts sur tous les théâtres de la Première Guerre mondiale. Le thème de l'émission est l'immigration internationale. Vous me direz, quel est le rapport avec le mur de Berlin et le 11 novembre ? Le mur de Berlin a été construit par les communistes est-allemands pour empêcher les Allemands de l'Est de passer vers l'Ouest, c'est-à-dire vers la liberté. Donc c'est un mur anti-migration, qui devrait nous faire réfléchir sur d'autres murs antimigratoires inutiles et politiquement illusoires dans la réalité mais aussi dans nos esprits. Quant au 11 novembre, je rappelle à ceux qui sont trop nationalistes que nous devons la victoire aussi aux étrangers qui sont venus se battre pour la France pendant plus de 4 ans auprès de nos soldats, y compris coloniaux, à qui on ne demandait pas de certificat de laïcité pour venir mourir en France, en Italie ou dans l'armée d'Orient pour la patrie. Nous la devons aussi à des travailleurs étrangers, y compris chinois, qui ont œuvré, sans parfois comprendre notre belle langue, pour la victoire des alliés aux côtés des femmes dans les usines et dans les campagnes. Je rappelle aussi que ce n'est qu'avec les années 20 que sont apparues la généralisation des passeports et des visas pour se déplacer internationalement. Avant cette date, la liberté de circuler était quasi totale, sauf cas exceptionnels comme la politique des quotas américains pour les Chinois en 1882.
Serge, y a-t-il une définition des migrations ?
Alors le terme migrant, qui est souvent utilisé à tort et à travers par les médias ou par les hommes politiques, eh bien ce terme de migrant est assez trop simpliste, en tout cas, pour définir les migrations internationales. Il y a d'un côté les migrants internationaux et de l'autre côté les réfugiés. Un fait est avant toute chose de dire que l'humanité est faite de migrations depuis que l'humain existe. Si l'on prend la définition d'un migrant international pour les Nations Unies, un migrant est un humain qui quitte son pays pour une durée supérieure à un an et un jour pour aller vivre et travailler dans un autre pays. Ceci inclut donc un retraité français qui s'installe au Portugal ou au Maroc, comme un Mexicain qui traverse le Rio Grande pour travailler et vivre aux États-Unis. On parle d'émigration au pays de départ et d'immigration pour le pays d'accueil. Selon les Nations Unies, le nombre actuel de migrants internationaux, c'est-à-dire de personnes vivant dans un pays autre que celui où elles sont nées, atteint 250 millions d'individus en 2016, les derniers chiffres que nous avons à notre disposition. C'est quand même une augmentation de 41% par rapport à l'année 2000. Mais je reviendrai sur la question par la suite. Ceci ne concerne pas, et écoutez-moi bien, les travailleurs français frontaliers avec la Suisse ou le Luxembourg ou l'Allemagne qui habitent en Lorraine ou en Alsace. Ceci ne concerne pas non plus les travailleurs saisonniers dans l'agriculture qui, sous contrat, viennent pour une période donnée, courte ou une tâche fixée, dans un autre pays, comme par exemple l'agriculture dont je viens de souligner le fait, le BTP ou l'industrie. D'autre part, nous avons un deuxième flux migratoire conséquent, ce sont les réfugiés. Les réfugiés sont, selon la Convention des Nations Unies de 1951, toute personne qui, pour des raisons politiques, religieuses ou d'appartenance à un groupe social ou politique, craint, j'ai bien dit craint, d'être persécutée par un État. En 1951, quand le texte a été écrit, cela était surtout destiné pour les Européens quittant le bloc soviétique. Des Polonais, des Tchèques, des Russes, enfin des Soviétiques. Mais le principe de réfugié a toujours existé. N'oubliez pas que nous avons eu des protestants français expulsés par Louis XIV vers l'Angleterre, les Pays-Bas, la Prusse, au XVIIe, XVIIIe siècle. On a eu les Arméniens exterminés par les Turcs et se réfugiant en France, les Juifs partant en Palestine, puis les Palestiniens quittant dans les pays arabes limitrophes la Palestine qui venait d'être occupée par les Israéliens, les Espagnols en 1939, ou les Chiliens dans les années 70, ou encore les Vietnamiens, que ce soit les Indochinois qui sont venus en France dès 1954, ou les Vietnamiens du Sud qui sont venus se réfugier chez nous à partir de 1974. Le HCR comptait 45 millions de réfugiés dans le monde en 2015, chiffre qui a explosé cette année-là du fait de la crise de la guerre en Syrie. On comptait 25 millions de réfugiés avant cette crise syrienne. 87% sont dans des camps de réfugiés dans les pays limitrophes. C'est-à-dire que la plupart des réfugiés ne viennent pas dans les pays riches. La plupart des réfugiés viennent dans les pays qui jouxtent leur pays en crise ou en guerre civile pour une raison très simple, c'est qu'ils ont toujours l'idée de revenir. On ne quitte pas comme ça son pays. Ce sont donc des pays en voie de développement qui accueillent la plupart des réfugiés dans le monde. Et ces pays d'accueil sont dans l'incapacité de le faire seuls, c'est pour ça qu'ils ont besoin du soutien des Nations Unies et des ONG, comme Médecins Sans Frontières, comme Médecins du Monde ou d'autres ONG. Donc ce sont soit les guerres, soit le terrorisme d'État, soit des groupes religieux qui poussent une population à partir d'une zone et à se réfugier dans une autre. L'UE, dans le cas syrien, par exemple, paye plus de 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle garde des réfugiés syriens, histoire qu'ils ne viennent pas sur le territoire de l'Union européenne. Alors, il est vrai que certains réfugiés essayent de passer quand même dans les pays riches. Mais généralement, écoutez-moi bien, ce sont 1, les plus éduqués qui arrivent, et 2, pour les Syriens, les plus fortunés. Pourquoi ? Parce qu'il faut obligatoirement payer des passeurs pour pouvoir passer les frontières. Et que non, on ne peut pas payer les passeurs quand on est trop pauvre. Donc les plus pauvres, en fait, ils sont restés en Turquie, ils sont restés au Liban, si je prends les Syriens, ils sont allés en Jordanie, ils sont allés en Irak, mais ils sont certainement pas venus du côté de Vintimille ou essayer de passer l'école des Alpes d'Haute-Provence ou des Hautes-Alpes pour venir en France. Ce qui est nouveau, et c'est ce qui pose les problèmes, par exemple, à l'OFPRA, à l'Office pour les réfugiés en France. C'est que dans les années 70, il était assez simple de définir un réfugié. Tu es vietnamien du Sud, tu crains parce que le Vietnam du Nord a pris ton pays. Bon, tu es réfugié, c'est un État contre toi en tant qu'individu. Tu es syrien, tu crains pour ton pays. Alors bien sûr, il y a des hommes politiques qui disent qu'ils ont qu'à prendre les armes. Je rappelle juste qu'en France, la résistance en 1940... D'accord, quand les Allemands sont arrivés, c'était 40 000 personnes sur une population de 30 millions. D'accord, donc il faut relativiser ce type de fait d'armes, surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas fait son service militaire qui ose le dire sur les ondes. Bien, donc, ce qui est nouveau, c'est que ce ne sont plus que seulement des États qui terrorisent les gens ou qui les menacent physiquement ou dans leur vie ou dans leur façon de vivre. Ce sont aussi des groupes qui ne sont pas étatiques, donc qu'on n'arrive pas véritablement à cerner. Alors, ça concerne qui maintenant, les réfugiés? Ben, ça concerne, en fait, par exemple, les homosexuels dans beaucoup de pays, hein, puisque l'homosexuel est considéré comme un délit ou comme un crime. Eh bien, dans beaucoup de pays, ils sont expulsés, ils sont pourchassés, donc ces gens-là viennent. Bon, allez prouver que vous êtes homosexuel, c'est pas facile. D'accord. Ensuite, vous avez les confessions religieuses. Bien sûr, on peut parler des Rohingyas musulmans qui sont chassés de Birmanie. On peut parler aussi des Karen chrétiens qui sont eux aussi chassés de Birmanie. Vous avez un dessinateur de presse qui peut être pourchassé. Vous avez aussi, et ça je l'ai vu moi quand j'étais étudiant à Strasbourg, une jeune étudiante algérienne qui avait été vitriolée par des mecs du fils dans sa fac parce qu'elle voulait pas porter le voile et qui était venue à se réfugier en France dans notre université. Et on avait quand même un certain nombre de copains algériens qui avaient fui donc l'Algérie et le fils et la guerre civile pour venir se réfugier chez nous. Donc, attention, le terrorisme n'est pas seulement le fait d'un État, c'est aussi le fait d'un climat. Je peux être terrorisé sur un réseau social, je peux être terrorisé par l'ambiance dans mon quartier. Est-ce que je reste dans mon quartier si jamais je suis terrorisé? Ben non, vous partez, d'accord? Et donc, les réfugiés partent. Alors, donc, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Et c'est malsain, en fait, de ne pas distinguer les migrants entre eux.
Alors, dis-moi Serge, comment ont évolué les migrations?
Alors, le phénomène migratoire, je reprends, le phénomène migratoire, c'est un phénomène aussi vieux que le monde. Seulement, là, on parle de période contemporaine, on parle d'aujourd'hui. Alors, on va dire, grosso modo, on va étudier le phénomène à partir de 1945, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Donc, depuis 1945, on a grosso modo deux périodes. 1945 à 1974, on connaît tous un peu l'histoire, c'est les 30 glorieuses, hein, le chômage qui disparaît, les usines qui tournent à plein régime. Bien. Donc, jusqu'en 1974, il y avait deux pôles d'émigration, d'immigration, pardon. Il y avait deux pôles d'immigration. Le premier pôle, c'était qui était quasiment équivalent. C'était soit les États-Unis, d'accord, qui était donc la première destination. Vous aviez des Européens qui quittaient encore l'Europe. Hein. Vous avez par exemple les parents de Bruce Willis, qui est né en Allemagne, qui sont partis vivre aux États-Unis, ce qui fait que Bruce Willis est devenu un grand acteur américain. Vous avez donc une série comme ça de personnes qui sont parties soit d'Europe, soit d'Amérique latine, et qui sont allées vers les États-Unis. Pour nous, l'Europe, d'accord, pour nous Européens, en fait. Les migrations, en fait, c'est un champ migratoire, c'est-à-dire un espace migratoire complet entre les pays de départ et les pays d'arrivée, qui sont généralement des pays limitrophes. C'est-à-dire, grosso modo, pour nous, la France, c'était l'Espagne, l'Italie, le Portugal, plus nos colonies proches, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, avec une primauté pour l'Algérie, puisque jusqu'en 1962, l'Algérie était considérée comme la France, enfin du moins dans les termes. Donc ça, c'était le premier pôle. Alors, n'oubliez pas, ces migrations nous ont amené Marie Curie, elles nous ont amené par la suite d'autres acteurs que nous connaissons bien aujourd'hui. Donc le troisième pôle, moins important, ont été à ce moment-là, jusqu'en 1974, les colonies, et notamment les colonies britanniques. D'accord, puisque c'est, par exemple, l'Australie accueillit encore des immigrants britanniques qui venaient soit d'Angleterre, soit d'Europe du Nord, je souligne, jusqu'en 1974, parce que les Australiens voulaient une population immigrante plutôt WASP, on va dire, blanche, bien blond aux yeux bleus ou roux, on peut accepter, mais pas brun italien ou espagnol, et français, c'était limite. Hein. Donc, et ça, c'était ce qu'on appelle une immigration choisie pour l'Australie. Bien. Pour les Français, en fait, on a plutôt une vague de reflux, puisque c'est la période de décolonisation. Et là, je rappelle, la France a accueilli un million de pieds noirs en 1962, plus les harkis. Alors, est-ce que ce sont des réfugiés? Est-ce que ce sont des migrants? Toute cette histoire de définition. Moi, je les mettrais plutôt dans le cadre des réfugiés. Donc, 1 million de personnes qui arrivent, ils arrivent bien d'Afrique vers chez nous. C'est le retour, hein, le reflux. Alors, il n'y a pas que nous, les Français, qui avons vécu ça. Les Pays-Bas ont vécu ça aussi avec leurs coloniaux qui sont d'Indonésie, qui sont revenus vers les Pays-Bas. Donc, avant 74, donc on a un champ migratoire qui est relativement faible. Généralement, ce sont des Mexicains qui vont aux États-Unis et pas des Brésiliens ni des Chiliens. C'est le pays limitrophe. L'autre chose qui est à savoir, c'est qu'avant 1974, ce sont souvent des entreprises privées qui chargeaient de l'immigration. C'est-à-dire que l'État était juste le facilitateur. C'est-à-dire pas de visa, peu de contrôle, un contrôle vraiment très vague des flux migratoires. C'était les entreprises qui allaient directement embaucher dans les pays des ouvriers pour Peugeot en Algérie, qui des ouvriers pour Renault au Maroc, pour les Anglais et Austin, on allait chercher des Jamaïcains pour aller alimenter les usines de Austin en Grande-Bretagne. Et pour les Allemands, il y avait un vivier incroyable. C'était la Yougoslavie ou la Turquie, ce que les Allemands ont appelé à un moment donné les Gastarbeiter, c'est-à-dire les travailleurs invités. Et 1974, c'est une rupture. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on commence la crise des 30 piteuses, on appelle ça les 30 piteuses, après les 30 glorieuses, donc le chômage de masse. Et la seule chose qu'ont trouvé les hommes politiques pour supprimer le chômage de masse, c'était de dire à la population, nous fermons les frontières. Donc, ça veut dire un chômeur égale un migrant, donc on ferme les frontières et le problème du travail et du chômage va être résolu automatiquement. Notez bien qu'on n'a pas remis en cause, et les hommes politiques de l'époque n'ont pas remis en cause, les structures économiques qui ont peut-être poussé, qui ont sans doute poussé au chômage. Ils ont juste vu, on a 1 million de chômeurs, on va essayer de limiter les dégâts en acceptant plus de migrants. Est-ce que cette fermeture des frontières a été totale? Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en même temps, on a promu en fait ce qu'on appelait le regroupement familial. Alors le regroupement familial, je rappelle, vous êtes légalement en France, vous avez votre famille qui se trouve dans un autre pays extra-européen, vous pouvez faire venir votre famille en France. Votre famille au sens strict du terme, c'est-à-dire votre femme, vos enfants. Alors bien sûr, il y a encore des choses, ils ont ramené 6 femmes, alors, faut arrêter les délires. Bon, faut arrêter tout ça. C'est pas la vérité. Vous pouvez avoir des cas, mais c'est pas l'immense majorité. Faut quand même pas exagérer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait ça? On a fait ça à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, le grand problème politique, c'était la décroissance de population. Pourquoi est-ce qu'on a ramené des femmes et leurs enfants? D'une part parce que c'est mieux pour un homme et pour son équilibre qu'il ait sa femme à côté et ses enfants à côté. C'est déjà mieux. Et puis d'autre part, puisqu'on fermait la frontière, on pouvait plus la rouvrir, donc pour qu'ils reviennent et qu'ils repartent et qu'ils reviennent et qu'ils repartent. Donc il faut bien que si on lui dise maintenant vous pouvez plus repartir et revenir, il faut bien qu'il revienne avec sa famille. Donc on a autorisé les familles à revenir parce qu'on a fermé les frontières. On n'en aurait pas été obligé de faire venir les familles si on n'avait pas ouvert, si on n'avait pas fermé les frontières. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire. Et ça, à partir de 1974, c'est une histoire très claire. Donc la plupart des migrants qui viennent aujourd'hui, c'est-à-dire on a à peu près 80 000 personnes qui viennent chaque année de façon légale en France, elles viennent soit parce qu'elles se marient avec un Français, soit, et c'est important, soit parce qu'ils viennent faire des études. Parce qu'un étudiant, c'est aussi un migrant. Il n'y a pas que les travailleurs, il y a aussi un étudiant qui peut être un migrant. Donc, et ce qui se passe depuis 1974, c'est que plus avec les deux pôles que j'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, vous avez d'autres pôles qui sont arrivés, d'autres pays. Vous avez l'Italie, par exemple, et l'Espagne qui sont devenus des pays d'immigration, alors qu'au départ, c'était des pays d'émigration, c'est-à-dire qu'on partait d'Espagne. Là, on y arrive. Enfin, les migrants y arrivent. Vous avez des pays, donc au fur et à mesure où les pays se développent, dans les régions, vous avez des pays qui se sont développés. Vous avez des régions qui se sont développées, par exemple, dans les pays du Golfe, dû au pétrole. Donc là, ils se sont développés et ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Donc où est-ce qu'ils ont été capter la main-d'œuvre ? Bah, d'abord dans les pays arabes limitrophes, puis ensuite quand ils ont vu que les pays arabes limitrophes c'était pas suffisant, bah ils sont allés les chercher beaucoup plus loin. Notamment, bah vous avez des travailleurs népalais, pakistanais, bangladais, des travailleuses philippines et des travailleurs philippins qui viennent donc dans les pays du Golfe pour travailler pour le plus grand plaisir des dirigeants de ces pays et des fortunes de ce pays. Donc ces pays du Golfe, eh ben ils attirent des populations asiatiques, ils attirent des Africains. Vous avez des Érythréens, des Éthiopiens, des Somaliens qui partent dans les pays du Golfe. Vous avez aussi, je le souligne, des Européens, y compris des Français, hein, nos nationaux, qui partent. Alors nous, bien sûr, on parle pas de migration, on parle d'expatriation. Mais enfin, c'est le même truc. Hein. Vous vous expatriez, vous partez, hein. Vous quittez votre pays. Donc l'autre pays qui offre des possibilités et des opportunités, parce que c'est toujours la même question, l'opportunité, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est le pays émergent, c'est le pays le plus puissant d'Afrique. Et donc, naturellement, les pays qui sont autour, les populations qui sont autour, voient l'Afrique du Sud comme un Eldorado, d'autant plus que depuis la fin de l'apartheid, donc dans les années 1991-92, eh bien, c'est un pays que l'on peut fréquenter quand on est noir. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, quand il y avait l'apartheid, effectivement, ça n'attirait pas beaucoup les noirs d'aller travailler en Afrique du Sud.
Peux-tu nous dire précisément qu'est-ce qui décide un être humain à quitter son pays ?
Bon, mais les géographes parlent d'émigration volontaire, pour parler l'émigration internationale de travail. Donc, ils parlent d'émigration volontaire. Bon, un départ d'un pays est toujours dû à une nécessité vitale. Avoir un travail, un logement, une vie digne. On ne quitte pas sa famille, ses amis, son environnement pour un RSA ou une allocation familiale. Jamais. Sinon, il va falloir m'expliquer comment 1 million d'individus partent chaque année vivre aux États-Unis où il n'y a ni RSA ni allocation familiale. Va falloir m'expliquer. L'émigration est une absence de perspective pour soi et sa famille, dans son propre pays. Il n'y a rien à attendre de ce pays, soit tout de suite, soit dans l'avenir. Donc qu'est-ce que je fais ? Je pars. Il faut que je parte. Ceci concerne le plus souvent les plus éduqués, les plus instruits. Parfois, c'est un conseil de village qui décide en Afrique, tu partiras, tu partiras. Souvenons-nous qu'ici, dans les Alpes de Haute-Provence, c'était une nécessité absolue de partir parfois pour le lointain Mexique en passant par la Louisiane pour faire richesse parce que dans votre village, on était trop pauvre. Pensez seulement, et je pense aux électeurs RN, d'accord ? À tous ceux qui pensent qu'il faut enlever les immigrés. Vous savez combien il y a de Français qui vivent à l'étranger ? 3 millions. Plus de 3 millions de nos compatriotes vivent à l'étranger. Ils vivent principalement où ça ? En Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, mais aussi dans les pays africains, Maroc, Côte d'Ivoire. Imaginez 5 minutes, seulement 5 minutes, que dans tous ces pays, on ait les mêmes xénophobes que chez nous. Vous voyez 3 millions de Français qui reviennent chez nous ? Où va être le bilan économique ? Quel est le bilan économique et social que nous allons retourner ? Quand nos compatriotes vont revenir, parce que tous les pays auront voté comme nous, on a envie de voter. D'accord ? Et qui me dit, moi, que l'Ivoirien, il va pas dire un jour, c'est chez moi ici. Et le Marocain, c'est chez moi ici. Et l'Américain, c'est chez moi. Ce chiffre de 3 millions, il doit être aussi relativisé. Relativisé pourquoi ? Parce que tout le monde ne se déclare pas dans les ambassades quand on part dans un pays de l'Union européenne. Quand nos élèves partent ou nos jeunes partent en Angleterre, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne, il ne déclare pas obligatoirement au consulat « Bonjour, je suis arrivé à Leipzig, je suis français et j'ai obligatoirement envie de voter ». Bon, on verra au municipal combien de Français de l'étranger vont voter pour nos municipales. Mais donc, quand on parle de 3 millions, c'est 3 millions et plus. D'accord ? Les arithmétiques, il y a tant de chômeurs et tout s'en suit, bah, vous savez, tant de chômeurs, mais les autres, ils peuvent dire autant. Hein. Nous aussi, ils ont 6%, 10% de chômage, hein. Et pourquoi vous voulez qu'ils fassent autrement que nous, on ferait. Donc, Je prends certains de nos élèves, certains de mes élèves de section euro, ils sont allés vivre en Allemagne. Pourquoi ils sont allés vivre en Allemagne? Bon, il y a peut-être le plaisir de la langue, il y a peut-être aussi la rencontre avec un Allemand ou une Allemande. Bien, pourquoi pas? Mais c'est parce qu'ils avaient plus d'opportunités ici, là-bas qu'ici. C'est les opportunités qui font que nos enfants partent. C'est eux qui font que, la semaine dernière, j'ai rencontré une mère de famille qui me disait « Ah ben tiens, mon fils, il part à Londres. Pourquoi il part à Londres? Pourquoi il vient pas ici ?» Bah ici, c'est un peu bouché. Hein. Ici, on lui demande d'avoir 5 ans d'expérience et lui, il peut pas avoir 5 ans d'expérience. Bah oui, je dis pas que le système britannique est folichon, mais il y a des opportunités. Vous allez là où il y a des opportunités. Pourquoi vous voulez que ceux du pays du Sud ne viennent pas voir les opportunités qu'il y a chez nous? Je reprends l'Europe. Parce que c'est quand même le contexte dans lequel nous vivons, nous, en tant que Français. C'est magique, l'Europe. Maintenant que j'ai la validité des diplômes au niveau européen, maintenant qu'il y a Erasmus pour les étudiants, maintenant qu'il y a Erasmus+, pour les apprentis et les bacs pro, parce que tout le monde a le droit maintenant à Erasmus. Il n'y a plus seulement les bacheliers classiques qui ont le droit à Erasmus, mais tout le monde a le droit à Erasmus. Tout le monde peut faire jusqu'à 30 ans, un service européen volontaire et aller apprendre son métier en Lituanie, en Pologne et partout ailleurs en Europe. C'est le seul espace où on vous donne une telle chance de pouvoir aller ailleurs. Parce que c'est une chance d'aller ailleurs. C'est pas quelque chose de « bonjour, je suis né à Manosque, je me suis marié à Manosque, j'ai fait mes études à Manosque, je voudrais mourir à Manosque ». C'est bien si c'est un choix, mais c'est pas bien si c'est contraint. La chose, c'est la liberté. La liberté, c'est d'avoir le choix. Nos enfants ont le choix. J'ai eu le choix. Je pouvais très bien partir vivre en Australie et puis laisser la France de côté, puisque en Australie, on me proposait autre chose que ce qu'on me proposait en France en 1992. Donc, voilà, c'est un choix que vous faites. Vous êtes libre. Non, nous sommes libres. Maintenant, je vous propose d'écouter une chanson chantée par Smarty. Bienvenue.
Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit.
Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique, si tu t'en vas c'est que te lâche. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de calache. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un frirangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner à eux.
Je suis venu chez toi,
je fais comme chez moi.
Bienvenue chez moi,
chez moi c'est ton toit.
Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi.
Bienvenue chez moi,
chez moi c'est ton toit.
J'ai fui la politique et les moustiques. Je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas qu'économique. On se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que feinte les balles d'une guérilla. Sans papier, je tente ma chance. J'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi, ça cultive le cacao sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau sans que son père ne mange la cola. Ah, eh.
Je suis venu chez toi.
Je fais comme chez moi.
Bienvenue chez moi.
Chez moi, c'est ton toit.
Je suis venu chez toi,
je fais comme chez moi.
Et
bienvenue chez moi,
chez moi c'est ton toit.
Tout le village a cotisé, dans mon dos je sens beaucoup de regards. Y'a pas d'eau, y'a pas d'électricité, les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi, que j'économise pour le retour. Et beaucoup ne veulent pas de moi, ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer.
Marie,
je suis venu chez toi,
je fais comme chez moi.
Et bienvenue chez moi,
chez moi c'est ton toit.
Je suis venu chez toi,
je fais comme chez moi.
Et bienvenue chez moi,
chez moi c'est ton toit.
Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer.
Les immigrants ont-ils des diplômes, Serge ?
Oui, c'est vrai que quand on voit débarquer des immigrants d'un bateau qui s'est renversé en plein milieu de la Méditerranée en haillons, c'est vrai qu'on a du mal à croire que ces gens sont des diplômés. Bon, donc, mais il faut aller au-delà de l'image, c'est toujours pareil. Il faut aller, il faut creuser, il faut rencontrer les gens. Et puis, il faut surtout écouter les associations qui les accueillent, parce que c'est elles qui sont au fait de ce qui se passe donc et de qui elles accueillent. Alors, pour être très simple, et ça a été aussi le cas pour les Italiens, ça a été le cas pour les Irlandais, ça a été le cas pour tous ceux qui ont immigré. Pour immigrer, il faut être informé, il faut avoir un réseau et il faut avoir un pécule, c'est-à-dire de l'argent. On n'immigre pas sans argent, on n'immigre pas sans savoir où on va. Ça, c'est tourner en rond, mais tourner en rond, on le fait dans sa maison, on n'est pas obligé de partir à l'étranger pour le faire. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de quotas. On va faire des quotas. Bon, je signale seulement que les quotas, c'est pas une nouveauté. On avait des green cards allemands en 2005. On avait une carte française qui s'appelait compétences et talents. La politique des quotas, c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Vous avez, par exemple, pendant très longtemps, on a fermé, par exemple, les portes des écoles d'infirmières en France. On a mis des numerus clausus, on a mis des numerus clausus pour les médecins et tout en suite. Le résultat des courses, on a été les chercher ailleurs. On a été les chercher en Espagne, parce qu'on en avait plein. On a été les chercher dans les pays comme le Liban, comme l'Algérie, en Afrique. On a été chercher, ceux qu'on avait formés. Alors, généralement, on les formait ici, puis on leur disait, tu veux rentrer dans ton pays? Ben non. Non, je suis radiologue, dans mon pays j'ai pas de radio, ben, chez nous tu peux faire radiologue, c'est très bien. Donc on les a invités comme ça à rester chez nous. Donc la politique de quotas, on l'a déjà. Il suffit de bien regarder le ministère du Travail, on a déjà des politiques de quotas dans l'agriculture, on a des politiques de quotas dans l'industrie, on a dans les services, on a aussi des politiques de quotas. Ça s'est déjà fait, hein, c'est pas, donc je rappelle, c'est pas une nouveauté. Donc, ont-ils des diplômes ? Oui. Oui, ils ont des diplômes. 31% de ceux qui émigrent de l'Afrique subsaharienne sont des diplômés post-bac, post-bac africain. Bien. C'est souvent aussi le sésame. C'est pour ça que, par exemple, vous avez un pays comme le Maroc qui vient de reprendre une francisation de son école secondaire. C'est-à-dire qu'on a eu une période d'arabisation à partir des années 70, et ce pays a décidé cet été de franciser son école publique. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'apprendre l'arabe. Enfin, l'arabe, vous voulez aller où avec l'arabe ? Dans les pays du Golfe, ça fait pas non plus trop rêver d'aller en Arabie Saoudite. Dans certains métiers, oui. Dans d'autres, le bâtiment, l'arabe, non, pas vraiment. Hein. Pas en Arabie Saoudite, surtout que là, vous êtes en concurrence avec des Pakistanais. Donc, et vous n'avez pas autant de droits que quand vous venez en France. Vous n'avez pas de droits sociaux, vous n'avez pas de droits, il y a des tas de choses qui n'existent pas en Arabie Saoudite. Donc, vous apprenez le français, d'accord ? Vous apprenez la langue qui va vous accueillir, du pays qui va vous accueillir. Faites bien attention, parce que l'Algérie à côté a décidé aussi, mais elle, d'angliciser. Ça, il faut le savoir. Ils viennent de dire, moi, ça sera l'anglais pour nous, pour le bac. Alors, combien de temps ça va durer ? On n'en sait rien, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, est-ce qu'ils sont diplômés ? Bien sûr. Parce que quand vous êtes diplômé, et que à 20 ans, vous avez 20 ans, que la moitié de la population a 20 ans, et que la seule chose que vous propose votre gouvernement, c'est de rester assis sur une plage en attendant que quelqu'un puisse vous pistonner pour avoir un boulot, qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, vous regardez de l'autre côté, vous regardez votre smartphone, vous regardez votre télé, vous dites « Waouh, l'Europe, c'est quand même pas mal ». D'accord, l'Europe, c'est quand même pas mal. D'accord, je vais peut-être en baver. D'accord, je vais peut-être aller dans un HLM. D'accord, je vais peut-être faire. Ça va peut-être être dur, mais ça sera quand même mieux que chez moi. Mieux dans la perspective. C'est toujours pareil. C'est pas mieux que d'être avec ses copains ou avec sa famille. C'est mieux dans la perspective de vie. C'est toujours la même chose. C'est la même chose que pour les Italiens, que pour les Irlandais, que pour tous ceux qui ont immigré un jour, pour les Français qui sont partis un jour de leur pays. C'est parce que ailleurs, c'est mieux. Alors c'est sûr, ça fait un peu le vieil adage. Oh, l'herbe du jardin est toujours plus verte que la mienne. Oui, c'est vrai. Mais parfois, c'est une réalité. Et donc, ce que l'on sait, par exemple, c'est que plus d'un tiers des migrations internationales aujourd'hui, soit grosso modo 60 millions d'individus, ce sont des gens qui ont bac plus dans le monde. D'accord ? Donc, il faut arrêter avec le pauvre petit air, le pauvre petit paysan qui part. Le pauvre petit paysan, il part d'abord dans la ville de son pays. C'est ce qu'on appelle un exode rural. Il part d'abord là. Et c'est une fois que l'exode rural a été fait, peut-être la génération suivante qui se dit « Tiens, je vais aller plus loin. » D'accord ? L'époque où on avait des paysans qui venaient travailler, justement, c'était l'époque où les industries venaient chercher leurs travailleurs dans le plateau anatolien, dans l'Atlas marocain ou dans l'Atlas algérien, en disant « On va prendre des paysans, ils comprennent pas grand-chose, et comme ça, on pourra les exploiter jusqu'au bout. Comme en Italie, ils ont exploité les Italiens du Sud, qui étaient trop paysans et qui les ont exploités dans les usines Fiat. Hein. Après, ils font la Ligue du Nord pour demander l'indépendance de l'Italie du Nord. Enfin bon, bref.
Alors Serge, à qui profitent les migrations ? Au pays de départ ou d'arrivée ?
Je serais presque prêt à dire aux deux. Alors, pour le pays de départ, on va essayer d'être un peu concret. Pour le pays de départ, c'est souvent une soupape de sécurité. Soupape de sécurité, parce que quand vous avez 50% de votre population qui a moins de 25 ans, bah, à un moment donné, quand elle arrive à l'âge adulte et que vous ne lui offrez aucune perspective parce que bah, vous n'êtes pas développé ou parce que bah, vous êtes tellement corrompu que ce n'est pas possible de se développer de façon normale, la seule chose qui reste, c'est de partir. Partir parce que vous ne pouvez pas vivre dans ce pays. Alors, selon les données de la Banque mondiale, ces départs apportent de l'argent aux pays en voie de développement, par exemple. Hein. Apportent de l'argent, pourquoi ? Parce que les gens qui partent, ben, ils offrent des choses à leurs familles. Alors, il y a 20-30 ans, quand on faisait le voyage vers le Maroc par la route, quand il n'y avait pas encore les vols Ryanair, et qu'on faisait l'autoroute espagnole et qu'on allait vers Al Jazeera pour aller ensuite vers Ceuta et vers Tanger, ah ben, on pouvait voir des norias de camions, de camionnettes qui partaient avec des familles, avec des tapis, des machines à laver, des choses de ce type. Alors maintenant, c'est plus trop ça. Ça existe encore. Hein, c'est encore infinitésimal. Maintenant, c'est carrément des transferts d'argent. Hein. C'est pour ça que vous avez Union Bank partout, qu'on a des transferts d'argent. Et bien, ces transferts d'argent, on est à peu près 500 milliards de dollars qui ont circulé d'immigrants vers leur pays d'origine pour l'année 2015. D'accord ? C'est les derniers chiffres que nous avons. D'accord, ce qui représente une richesse fondamentale dans certains pays comme le Cap-Vert ou Haïti ou le Malawi. Donc ces petits pays-là, sans ça, ils ne peuvent pas. Je rappelle une donnée hein, à nos auditeurs, pour schématiser très fort. 20% de la population mondiale vit dans les pays riches. L'Europe occidentale... l'Amérique du Nord, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, la Corée du Sud et le Japon. Bien. Donc, 20%. Ils concentrent à eux seuls 60% de la richesse. D'accord ? 60% de la richesse. Et ils ne veulent pas donner 1% aux pays pauvres. Au début des années 80, je rappelle, hein, au début des années 80, tout le monde s'était dit, on va donner 2% de notre richesse pour le développement des pays en voie de développement. Tout le monde l'avait dit. Aujourd'hui, bah, personne ne le fait. Aucun pays riche n'a fait ça. Et ne fait ça. Et bien, à un moment donné, quand vous n'avez pas de développement d'aide au développement, eh bien, vous en avez les responsabilités. C'est-à-dire que, comme disait Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère, mais on doit aussi porter la misère du monde. Certains oublient cette deuxième phrase. C'est-à-dire qu'on doit absolument aider les pays en voie de développement. Sinon, c'est pas possible. Vous auriez toujours une Europe qui sera ou des pays riches qui seront des miroirs aux alouettes et qui font rêver n'importe qui vit dans un pays, nous voit vivre, même pauvrement, ben, on vit de toute manière mieux que même quand on est très pauvre, on vit mieux que le plus moyen de. Donc, à un moment donné, faut pas se leurrer, ils ont aussi envie de vivre comme nous. Parce que quand même, vivre à l'européenne, vivre à la japonaise, vivre à l'américaine, vivre à la nord-américaine, c'est quand même plus facile, surtout quand on est un pays en paix, avec une structure, avec une police, avec une justice, on peut dire ce qu'on veut dessus, mais quand même, on a ça. Allez essayer de faire la même chose en ce moment en République démocratique du Congo. Je rappelle juste pour ce pays-là que depuis 15 ans, ils ont 8 millions de morts dont on ne parle pas. Ça, apparemment, ça gêne aucune... aucune puissance étrangère n'est gênée par ça. Bien. Donc, ici, d'un point de vue macroéconomique, c'est une aide substantielle qui remplace, disons les choses, l'aide d'État, d'accord, sans la pallier, mais qui la remplace. C'est-à-dire que sans ça, vous avez des familles de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique, ou de l'autre côté en Asie, par exemple au Népal, pour ceux qui travaillent, pour les Népalais qui travaillent dans les pays du Golfe, vous avez des villages qui ne pourraient pas se développer, vous avez des villages ou des familles qui ne pourraient pas vivre, et qu'en cas d'accident, vous n'avez pas de sécurité sociale. Quand vous n'avez pas de sécurité sociale dans votre pays, qu'il faut payer le médecin, qu'il faut payer le médicament et tout ça, vous faites appel à qui? Vous faites appel à vos cousins, à votre frère qui, lui, a réussi à passer les frontières et en ce moment en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, vous lui demandez de l'aide. Le village va demander de l'aide. On a besoin d'une connexion Internet et d'un panneau solaire. Est-ce que tu pourrais pas nous aider? Bon, ok, d'accord, on fait une quête et puis on ramène. D'accord? Donc ça, c'est pour les pays d'accueil. Pour les pays de départ, pardon. Pour les pays d'accueil, c'est-à-dire nous, Français, moi, je sais pas, moi, je suis à Manosque, je vais prendre des exemples très, très concrets. Je suis à Manosque ou à Gap, ou à Marseille. Je peux manger ce que je veux. Il y a 50 ans, on avait le droit au steak frites, à la tapenade et au pied paquet. Avec le couscous, parce que les pieds noirs et les harkis avaient ramené le couscous. Mais grosso modo, on était dans ce triptyque-là avec un peu de pizza parce qu'on avait encore déjà les Italiens. Mais maintenant, je peux manger indonésien, je peux manger chinois, je peux manger vietnamien, je peux manger quasiment tous les plats, je peux les manger. Je suis dans une mondialisation, un multiculturalisme, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça peut pas être autrement. Et ça peut pas être autrement non plus dans leur pays, ne vous inquiétez pas, eux aussi c'est multiculturel. Alors, de temps en temps, ils ont des aspects un peu bizarres. Une femme qui conduit en Arabie Saoudite, vous vous rendez compte du choc culturel que ça fait dans ce pays-là? La mondialisation, ça avance. Économiquement, pour des pays riches, alors ça, je vais donner des chiffres, au ministère du Travail et des organisations syndicales au niveau de l'Union européenne, ils ont déjà quantifié ça, vous pourrez regarder ça sur Eurostat, le fait d'avoir une population immigrée, ça vous fait élever le salaire médian d'1,3%. En fait, le seul problème de l'immigration, c'est que ça rentre en compétition avec les plus pauvres, parce qu'il est là le problème. Vous rentrez en compétition avec les plus pauvres, c'est ça qui fait peur. D'accord. Et c'est ça qu'on devrait résoudre aussi. C'est-à-dire que dans certains métiers, ça tire le salaire à la baisse. Mais dans quel métier est-ce que ça tire le salaire à la baisse? Ça tire le salaire à la baisse dans l'agriculture, ça tire le salaire à la baisse dans l'industrie ou dans l'industrie hôtelière, parce que vous avez un certain nombre de gens qui travaillent au noir dans l'industrie hôtelière. Faut pas aller chercher seulement chez les RSistes des gens qui grugent. Bien. Donc, les noms de famille. Nos noms de famille. Écoutez bien les noms de famille. D'accord? C'est la partie émergée de notre intimité migratoire. Nous avons tous un ancêtre étranger. D'accord? Tous. Nous avons un ancêtre étranger. Donc, à qui ça profite? L'immigration profite à tout le monde. Ça dépend comment on le voit et comment on le perçoit. Et surtout, comment on le décrit. D'accord? À force de le décrire de façon négative, eh bien on ne voit que l'aspect négatif supposé d'une immigration. Un dernier petit point. Quand on prend acte terroriste, parce que souvent on mélange tout, et dans les réfugiés, vous devez bien avoir des terroristes. C'est vrai, on peut en avoir un. Un sur 1,5 million gens qui sont arrivés lors de la crise syrienne. Un seul. La plupart des autres, ils viennent de chez nous. Ils ont été chez nous. Ils sont nés chez nous. Donc ce n'est pas des immigrants, ce sont des nationaux.
Exposé passionnant qui nous amène à de la passion. L'extrême droite parle beaucoup en période électorale des clandestins.
Alors les clandestins, comme son nom l'indique, ils sont clandestins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas leur nombre. Dis-moi, pas officiellement, d'accord. Alors les clandestins, ils existent depuis quand? Mais ils existent seulement depuis 1974. Avant, il n'y avait pas de clandestins puisque nos frontières étaient ouvertes aux immigrants. Voilà. On les retrouve où? On les retrouve dans le BTP, on les retrouve dans l'hôtellerie, on les retrouve dans la restauration, on les retrouve dans l'industrie. On s'est rendu compte il y a 6 ans, que sur les chantiers de naval de Saint-Nazaire, on avait 200 Pakistanais qui n'avaient pas été payés depuis 6 mois pour une boîte sous-traitante de nos grandes marques, de nos grandes firmes qui fabriquent nos bateaux et nos navires. Donc, vous les voyez là, vous les voyez où dans la restauration? Mais la dernière fois, j'étais à Venise il y a 2 ans, incroyable, hein. Alors là, c'était superbe, c'est beau et tout. Bon, derrière tous les restaurants, quand vous allez dans les arrière-cours, il n'y avait que des noirs. Le pizzaiolo est devenu noir. En revanche, le serveur, lui, toujours blond du style Michelangelo, hein, d'accord, ou Leonardo da Vinci. Donc, 48% des clandestins sont des femmes. Que l'on retrouve où? Dans les ateliers de couture clandestins, à l'aide aux personnes âgées, dans l'hôtellerie, et pire, dans les réseaux de prostitution. Quant aux enfants, puisque là aussi, on a aussi des enfants qui sont clandestins, eh bien, ces enfants, on les retrouve dans les mêmes réseaux que des adultes. D'accord? On a, par exemple, à Avignon, il y a un imam qui a été arrêté il y a 3 ans parce qu'il faisait de la prostitution de petits enfants marocains dans les cages d'escalier. Faut arrêter. Là, c'est grave quand même, hein. Bien. On compte combien d'immigrants en ce moment clandestins? 300 000. 300 000 selon les sources policières et surtout, ce qui est intéressant, selon les sources associatives, c'est-à-dire ceux qui ont la charge. Puisqu'en fait, l'État s'est déchargé de ça sur les associations. Hein. Donc, il dit aux associations, débrouillez-vous, on se lave les mains, on regarde ailleurs, et puis de temps en temps, on agit parce qu'il y a les médias qui commencent à chouiner, et puis bientôt, c'est municipal, donc il faut vite enlever les gens qui sont à Porte de la Chapelle. Franchement, Porte de la Chapelle, des fois j'y retourne parce que ma mère habite au nord de la Porte de la Chapelle. Ça fait, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas de bidonville. D'accord? Depuis 10 ans, je vois un bidonville, Porte de la Chapelle, à chaque fois que je vais de la Porte de la Chapelle à Compiègne. Donc il y a des choses qui peuvent aussi me choquer. Et bon, vous pouvez dégager ça au bulldozer. Si vous n'arrivez pas à trouver un logement pour eux, bah, vous pourrez revenir dans 6 mois, ce sera exactement pareil. 300 000, on est bien loin des millions déclarés par l'extrême droite. Hein. 90% d'entre eux sont arrivés légalement en France. D'accord? Et je le souligne pour les aficionados, selon les États-Unis, on aurait même 50 000 Français qui vivraient aux États-Unis sans titre de séjour, c'est-à-dire qui seraient clandestins aux États-Unis. D'accord? Quant aux expulsions, alors, oui, on a les expulsions, il faut tous les expulser. Bon, ben c'est très bien. La Cour des comptes, qui est pas une enseigne bolchevique, que je sache, ou d'extrême gauche, a fait le calcul que cela coûterait par émigrant entre 12 000 et 27 000 euros pour une expulsion après arrestation jusqu'à l'arrivée dans son pays d'origine. 27 000 euros, ça veut dire que nous devrions, nous Français, payer 500 millions d'euros, écoutez-moi bien, pour 15 000 expulsions par an. Alors, 500 millions d'euros, je vous invite à faire le calcul, surtout pour ceux qui veulent des moins d'impôts. Hein, on n'est pas prêt d'y arriver.
Alors, si on suit cette logique, on arrive à la question de la construction de murs. Et ça fait peur.
Eh ben oui, surtout qu'on fête la fin d'un mur. En fait, la fin d'un mur et du rideau de fer. Alors moi, qui l'ai traversé plusieurs fois, puisque j'habitais à Berlin-Ouest, donc j'ai traversé le rideau de fer entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et je voyais le mur de Berlin tous les jours quand j'allais au lycée français, eh ben, je peux vous assurer que entendre parler de chute du mur et puis de voir des murs s'ériger, ça me pose problème. Alors pourquoi ça me pose problème? Bah parce que c'est inutile. Un, parce que les immigrants, ils viennent librement chez nous, d'habitude. C'est rare ceux qui essayent de traverser la Méditerranée. C'est rare ceux qui essayent de passer les frontières. Eux, ils sont infinitimaux. Ceux qui viennent, en fait, ils viennent par l'air. Ils viennent par les aéroports. Ils viennent librement. Ils viennent avec un visa de touriste. Je rappelle que nous sommes le premier pays qui accueille autant de touristes dans le monde. Hein. 84 millions de touristes par an l'année. Enfin, l'année dernière, 84 millions de touristes sont venus. Eh ben, sur ces 84 millions, il y en a qui se disent « Waouh, la France, c'est quand même bien, j'y reste. » Bien. Donc, construire un mur. Qui construit des murs? Ben, on a Trump. C'est pas le seul qui a construit les murs. Hein. Bush, fils, c'est lui qui a initié le mur. Hein. Trump, il a juste promis à sa population qu'il terminerait le mur. Donc, les Américains, ça fait 15 ans qu'ils font un mur. Vous avez les Israéliens qui font un mur entre les Palestiniens et eux. En même temps, ça leur permet aussi d'annexer ce qu'ils ont, eux, envie d'avoir avec eux, c'est-à-dire leur façon de voir Israël. Qui c'est qui en fait aussi? Ben, vous avez la Chine qui en a construit un de mur entre elle et la Corée du Nord pour empêcher les Coréens du Nord de venir se réfugier et venir vivre en Chine. Vous avez l'Union Européenne qui a construit des murs. On nous dit toujours l'Union Européenne ne fait rien. Ben, l'Union Européenne a la Frontex pour les frontières. Elle a aussi fait des murs. Et allez voir du côté de Melilla et Ceuta les rideaux de fer qui ont été faits. Allez sur un site internet, hein, vous tapez Melilla, Ceuta, vous regarderez les belles barrières qui nous ont coûté un pognon de dingue. Celle qui est entre la Bulgarie et la Turquie ou la Grèce et la Turquie. Là aussi, on a de très beaux murs qui sont faits. Il ne s'agit pas seulement d'Orban qui fait son mur, hein. Lui il a fait un mur, un rideau de fer entre lui et la Croatie, parce que n'est-ce pas, c'est pas possible. Bien, et la Croatie en a refait un aussi, hein, parce que n'est-ce pas, ils ont perdu la Coupe du Monde, donc ils sont un peu fâchés, ils en ont refait un. Donc, là je fais un peu de l'humour, mais ça sert à quoi? Eh ben en fait, vous avez à Berkeley, vous avez une universitaire américaine, Wendy Brown, qui a dit qu'en fait, ça ne servait à rien et que c'était surtout une distinction explicite entre le « nous » et « eux ». C'est-à-dire qu'on fait un mur quand on veut maintenir l'autre à distance. Reste chez toi, tu n'es pas chez toi, je fais mon mur. C'est un peu comme nos actes de propriété quand on érige un mur entre son voisin. Alors quand on n'en a pas, tout va bien, et quand on veut plus le voir, on érige un mur. Ben, là, c'est pareil. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, les démocraties se sont elles-mêmes emmurées. Alors, vous avez la même chose entre le Bangladesh et l'Inde, puisque les Indiens ne veulent absolument pas voir ces pauvres Bangladais venir les chatouiller dans certaines régions. Donc, ils n'ont pas envie. Donc, ils érigent des murs. Et puis, vous avez les Pakistanais qui ont fait pareil. Enfin, bref. Tout le monde érige des murs. Dès qu'on a un problème, on érige un mur. Au moins, comme ça, la question est faite. Ce qui pose un problème de gouvernance mondiale des migrations. D'accord? Et vous avez de plus en plus le débat, en fait, c'est est-ce que ça serait pas mieux, en fait, si on réfléchissait et si on autorisait les gens, bah, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, à voyager. Parce que quand vous pouvez migrer et revenir dans votre pays, bah là, vous n'avez plus besoin de murs. D'accord? Et être un peu plus intelligent, voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un humain, bah, ça vous rend aussi un peu plus fraternel. Il faudrait peut-être creuser cette histoire de fraternité au lieu seulement de la graver au-dessus de nos mairies.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur la question « Y a-t-il intégration ?» Nous écoutons pour le moment Bernard Lavillier et Tikenja Fakoli. Question de Pau.
Ils m'ont arrêté une nuit. Le froid jouait du rasoir. Rue de Flandre, loin du pays, entre le crack et le poignard. Question de peau, question de veine et de couleur.
Je me suis planqué comme un renard, train d'atterrissage d'un avion. Dans le conteneur d'un bagnard, dans la chambre arrière d'un camion. Question de peau, question de veine et de couleur.
Question de trop, question de chance, marge d'erreur. Arrivé
au fond des corridors,
travailler noir jusqu'à la mort. Clandestin,
traqué par la police.
Silencieux, au bord du précipice.
Au bord du précipice, y a-t-il intégration?
Bah oui, il y a intégration. Et intégration dans la nation, hein, intégration dans des espaces, aller dire à un Chicanos américain qui n'est plus américain, il est américain, aller dire à un Haïtien canadien qui n'est pas canadien, il est canadien, il a même l'accent canadien. Oui, bien sûr, les gens s'intègrent, ils peuvent s'intégrer avec des turbans sur la tête, ils peuvent s'intégrer avec ce qu'ils veulent, mais ils sont, et ben ils sont français, ils sont allemands au bout du compte. Tiens, je reprends le dernier exemple sur l'Allemagne, hein. L'Allemagne jusque dans les années 90, pour être allemand, il fallait être de sang allemand. Désormais, vous pouvez être d'origine turque, avoir des parents qui ne sont pas obligatoirement allemands et devenir allemand. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer ? S'intégrer à quoi ? S'intégrer, c'était beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus facile quand il y a de l'emploi. Pourquoi ? Parce que vous avez quelque chose qui marche super bien dans l'intégration, c'est l'école. L'école intègre formidablement. Vous pouvez avoir des classes multiculturelles dans votre classe. C'est assez génial à voir. Le problème, il n'est pas à l'école. Le problème, il est en dehors. On vous renvoie aux origines. Et l'origine de machin, l'origine de truc, tel joueur est d'origine. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est d'origine ? Il est un homme. C'est amplement suffisant. Après, qu'il vienne avec le couscous et tout ça, ça c'est son truc. Il peut venir avec une pizza s'il en a envie. C'est quoi s'intégrer ? S'intégrer, c'est de considérer que l'autre est votre ami. Vous n'êtes pas amoureux de lui. Vous êtes ami avec lui. Vous n'êtes pas son frère. Vous le considérez de façon fraternelle. C'est pas du tout la même chose. On considère les autres comme des êtres humains, on les considère pas obligatoirement comme des émis avec des couteaux sous les dents. Vous imaginez, vous, le pauvre petit russe qui arrive dans les années 20 et à qui on dit « Ah, espèce de bolchevique, maintenant je suis blanc. » Ah bah non, on pensait que tous les Russes avaient un couteau entre les dents et étaient pour Staline et Lénine. Bah non, je suis pas pour Staline et Lénine, je suis pas comme ça. Bien, donc tous les... c'est les généralisations hein, qu'on a vite fait dans certains médias. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a, on assiste à quoi ? Est-ce que c'est une intégration, une des intégrations, ça dépend où est-ce qu'on habite, ça dépend si on fait partie d'une classe moyenne, si on arrive dans la classe moyenne, ou si on est en train de dégringoler et qu'on habite dans les quartiers pauvres. Si vous êtes dans un ghetto, vous êtes dans un ghetto et vous en avez toutes les attributs du ghetto. On a l'accent, on a le mode de vie, on a le fait d'être fermé entre soi, alors que si vous êtes dehors et qu'on vous accepte tel que vous êtes, tout fonctionne bien dans l'intégration. L'accent c'est pareil, l'accent ça peut être un phénomène d'intégration, c'est sûr. Avoir l'accent ta mère de banlieue, ça va quand vous êtes un comique, ça va quand on est un artiste, ça va quand on... Voilà. Est-ce que ça va quand on veut être DRH d'une grande entreprise ? Absolument pas, on est bien d'accord. C'est pas possible. Ça, les Chicanos, par exemple, ils l'ont compris. En 95, quand ils allaient à la chasse à l'Asiatique en Californie, parce qu'en 95 c'était assez raide, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, quand ils se sont reposés, quand ils sont calmés, ils ont compris. Ils ont compris quoi ? Ils ont compris que bandolero, bandolera, c'était sympa pour les Mexicains et les Chicanos qui jouaient de la guitare devant les restaurants, mais ça ne permettait pas de réussir ses études. Et résultat des courses, au bout de 3 générations, vous avez quasiment plus aucun hispanique qui ne parle espagnol convenablement. Et surtout plus avec un accent. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'accent est discriminant. On le sait tous que l'accent est discriminant. Et moi, avec James, on sait très bien que l'accent picor comme ça, c'est discriminant. Là, il y a des métiers qui vous sont interdits.
C'est un très lourd handicap.
Donc en conclusion, qu'est-ce qui se passe ? N'oublions pas quand même que les phénomènes migratoires dans le monde ne concernent en fait que 3% de la population mondiale. Il n'y a que 3% de la population mondiale qui migre, d'accord ? Vous avez beaucoup plus de touristes qui migrent par an, hein ? Et ça c'est une migration, on n'en parle pas parce que c'est une migration saisonnière. Donc la priorité en fait aujourd'hui, c'est pas l'immigration, la priorité c'est le développement économique. Le développement économique et social et culturel de tous et de toutes partout dans le monde, pas seulement chez nous, mais chez les autres, partout dans tous les pays. La priorité, c'est de lutter contre le réchauffement climatique, contre les inégalités économiques et sociales, contre les injustices politiques. Il est là le véritable combat. Et de ne jamais oublier que l'humanité se déplace et se déplacera toujours. Vous pouvez construire les murs que vous voulez. Salut et fraternité à tous et toutes. On se quitte avec Gaël Faye, Paris Métèque, et je vous donne rendez-vous le 11 décembre à 15h pour une histoire de la laïcité en France.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées, dans tes ruelles cruelles ou tes boulevards affliques, dans la musique cruelle des silences chaophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent dans le brouillard épais de tes fines particules. Moi, pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel, galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer.